Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche à tous. Émission en direct réalisée par mon ami Monde à la technique. Et je reçois ce matin Amazing Améziane. Qu'est-ce qu'il y a de amazing chez vous, Améziane?
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci pour l'invitation. Ce qu'il y a d'amazing, c'est le fait que j'écrive, que je dessine, que je mette en couleur, que je fasse le design, que je fasse le bouquin de la première couverture à celle de la fin en entier.
D'accord. Vous avez longtemps été Améziane avant d'être Amazing. Ça fait combien d'années que vous signez sous ce nom Amazing Améziane?
Ah, ça fait peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Je crois que l'homophonie approximative est l'un de mes gags préférés, et Amazing Améziane, je trouvais ça rigolo. C'est un peu moins rigolo quand on est publié aux États-Unis, parce que pour eux, ça veut dire vraiment quelque chose.
Et vous êtes publié aux États-Unis.
Voilà.
Il faut le dire.
Oui.
Vous faites partie des gens qu'on retrouve sur les listes des meilleures ventes aux États-Unis.
Oui, j'ai fait Mohamed Ali, la biographie de Mohamed Ali qui a été traduite.
Il faut le dire,
c'est
pas tous les dimanches qu'on a des auteurs qui vendent beaucoup de livres aux États-Unis.
J'ai fait un livre sur Attica aussi, qui était une production originale, qui a été traduite en France l'an dernier. C'était très agréable, très sympathique de pouvoir faire ça.
Bon, Amazing, ça semble donc, c'est pour votre carrière à l'international. Voilà. Améziane, c'est plus vers chez nous quand même.
Voilà, c'est ça.
Ça sent un peu la Kabylie.
Ça sent, voilà, la grande Kabylie, tout à fait.
Alors vous êtes scénariste, illustrateur, directeur artistique et professeur de manga depuis 20 ans, donc vous faites vous des BD, des comics.
C'est ça.
Et vous avez commencé à le dire, donc après Martin Scorsese, Mohamed Ali et Angela Davis, vous vous attaquez à Quentin Tarantino dans une biographie bande dessinée. Ça s'appelle Quentin par Tarantino aux éditions du Rocher. Alors comment ça s'appelle ce genre précis de livre que vous faites?
Moi je dirais biopic. Biography Pictures, c'est-à-dire que je raconte l'histoire de quelqu'un, je fais mes devoirs, j'essaie que ce soit le plus juste possible historiquement, et après il faut amener la narration dedans, il faut amener les dialogues, la mise en scène, et ça c'est de la création artistique. Donc du coup c'est pas une vraie biographie à 100% puisqu'il y a des dialogues qui sont créés, mais la base historique est travaillée et juste. Donc biopic, c'est le terme parfait, je pense.
Plus proche pour vous, les Américains disent graphic novel.
Ça, c'est la forme.
C'est la même chose.
C'est la forme, c'est le roman graphique, c'est la forme, c'est le fait de ne pas rester sur de la bande dessinée à la Tintin, où le style est pareil du début à la fin. Là, il y a plus de liberté et on estime qu'on peut s'amuser plus sur les textes et sur les images.
Ça a peut-être étonné les gens, mais vous dites que de Quentin Tarantino, que sa vie ressemble un peu à votre vie. Qu'est-ce que vous avez de semblable? En quoi est-ce que vous vous reconnaissez dans son parcours?
Oh, je vois bien le jeune Quentin Tarantino qui est obsédé par son art. Moi, c'était les comics et lui, c'est le cinéma. Et qui sent qu'il y a une bête qui doit sortir de son corps, quoi. Il faut faire quelque chose. Et il est quasiment persuadé qu'il va arriver à faire du cinéma, comme moi, je pensais faire de la bande dessinée. Et du coup, ce petit jeune qui n'en veut, comme on dit, qui a bien galéré pendant très très longues années, je me suis assez facilement mis dans la peau de ce personnage. Et du coup, je pensais pouvoir trouver les secrets de la psyché de ces choses-là, au vu de ce que j'ai lu de sa biographie et ses interviews.
Dans ce sens où il n'a pas grandi dans un milieu où on avait des réseaux, où on pouvait même pas imaginer faire un métier comme ça.
Non, il a grandi dans un milieu très populaire. Le cinéma de Tarantino se veut toujours très très populaire. Et il a vécu comme un fils unique. Tout ça, c'est des choses qui me parlent et que je peux arriver à faire comprendre aux gens. Parce que l'avantage du biopic, c'est de montrer aussi certaines parties qui ne sont pas dans les biographies officielles.
Dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des images officielles, puisque vous pouvez les dessiner, en fait.
Oui, c'est ça. C'est que si, par exemple, il explique qu'il avait une relation particulière avec sa mère, moi, je vais la montrer, et je vais la montrer avec des dialogues. Et ces dialogues seront le reflet de dialogues qu'on verra dans ces films. Donc, c'est des petits easter eggs que j'essaye de glisser à l'intérieur du livre pour les fans et pour le grand public.
C'est-à-dire que les dialogues sont vrais.
Les dialogues...
Quasiment, quoi, en fait.
Les dialogues sont vrais à 50% dans le livre, ouais. Parce qu'ils sont issus de qu'on appelle ça, d'interviews qu'il a données. Donc, il a expliqué ce qui se passait et ce qu'il a dit à ce moment-là. Et les 50% qui restent, c'est des reconstructions personnel.
Vous êtes un docophage cinéphile. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous attaquez à un nouveau personnage, vous nourrissez, vous avalez des docs, vous écoutez des interviews d'eux jusqu'à finalement vous mettre dans leur peau.
Oui, surtout que, comme j'ai fait pour Martin Scorsese, j'ai écrit le personnage à la première personne, en fait. Donc il faut arriver à avoir son vocabulaire, son langage, sa façon de raconter les choses, de répéter les mêmes histoires aussi comme ils ont l'habitude de les répéter. Quentin Tarantino, quand il va parler d'un film, ça va être le meilleur film de sa vie. Quand il va parler de telle ou telle expérience, ça va être la meilleure expérience de sa vie. Et d'ailleurs, la correctrice qui s'occupait du livre me disait, mais ça, tu l'avais déjà dit il y a 4 pages. Je fais, oui, mais Tarantino, il est comme ça.
Il part du principe que il faut être le meilleur publicitaire de soi-même.
Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi très proche de ce que faisait Mohamed Ali, qui disait parlez au maximum de vous, et jusqu'au jour où votre travail parlera à votre place, et vous aurez, à ce moment-là, vous serez tranquille, vous pourrez vous reposer un peu.
Mais pour l'instant, fake it until you make it.
Voilà.
Mais c'est intéressant déjà comme psychologie.
Ah ben oui, mais moi, c'est la raison du Amazing Amazian. C'est la raison de commencer sa carrière en disant je suis Amazian le fabuleux. Et puis après, au bout d'un moment, si les gens sont d'accord au bout d'une vingtaine de livres, c'est bon. Sinon, je l'enlève.
Montrez votre livre à la caméra puisque l'émission est filmée. Je vous assure que c'est fabuleux. Hein. C'est un travail de folie, comme tous vos biopics d'ailleurs. C'est la grande mode en France des HPI. Je ne savais pas, mais. Alors lui, il explose tous les scores de HPI, Tarantino.
HPI.
Au potentiel intellectuel.
Oui, à ce qui paraît.
Vous ne dites pas HPI vous
non, moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais
Il y a une série sur TF1 qui a vulgarisé le titre.
Ah, hein, d'accord.
Alors, on dit HP, au potentiel, voilà.
Lui dit qu'il a été testé quand il était jeune et qu'il avait un haut QI parce que sa mère s'inquiétait réellement que c'était une mauvaise élève. Et qu'il était juste intéressé par l'histoire et par l'anglais, donc, à l'époque. Et quand elle l'a testé pour son intellectuel, son quotient intellectuel, excusez-moi, elle a vu qu'il était assez élevé, donc elle s'est dit, c'est bon, il va arriver à se débrouiller dans la vie. Et elle a vu qu'il lisait beaucoup et qu'il lisait les livres qu'il prenait dans sa bibliothèque à elle. Donc elle se dit, s'il a l'amour de la lecture, il va y arriver. Il faut qu'il se mette au boulot, mais il va y arriver. Elle avait confiance dans son fils, même si elle n'a pas aimé tous les choix qu'il a fait.
Attendez, un QI de 160, c'est le haut de la fourchette. Hein.
Ah ben, c'est ce que lui dit. Lui le dit, et en même temps, quand on regarde ce qu'il est capable de produire, quand on regarde la qualité de mémoire qu'il a, moi je dis, pourquoi pas.
Vous avez rencontré Tarantino pour votre biopic ou pas?
Non,
du tout.
Malheureusement.
Vous avez envoyé une invitation en disant voilà, je suis en train de faire un travail sur vous. Est-ce que...
Non, je fais les livres, je fais mon boulot dans mon coin, je fais le livre et quand le livre est fini, on essaye de temps en temps, quand on a le moyen, de contacter la personne, de lui passer le livre pour lui montrer ce qui a été fait. J'attends, je vous avoue, la version en langue anglaise quand elle existera. Parce que c'est pas tout ça qu'il le regarde, mais il faut qu'il le lise, parce que j'ai quand même travaillé, et à mon avis, s'il y a quelqu'un qui pourra trouver ça drôle, c'est peut-être lui.
D'ailleurs, il faut dire que beaucoup de punchlines que vous mettez dans votre livre sont en anglais directement, et vous mettez la traduction
oui,
après.
Oui, hein. Oui, c'est ça, je suis vraiment... C'est en VO d'abord, avec les sous-titres, je garde tous les titres de films en anglais, aussi parce que moi, je les connais comme ça. Et de temps en temps, je me rappelle pas bien des titres français, des traductions, voire je ne les aime pas. Donc je préfère garder le titre original et de mettre des notes à foison dans le livre pour le public français.
Voilà, il faut traduire. Mais c'est vrai que pour les vrais cinéphiles, au cinéphile, c'est en VO que ça se passe. Hein.
Oui, je crois qu'il y a des films de Tarantino que je n'ai jamais vus en français. Je connais pas la voix, par exemple, française de Samuel Jackson dans Pulp Fiction.
Bruce Willis, quand même, vous connaissez la voix française de Bruce Willis.
Oui.
Travolta aussi.
Oui, bien sûr, je crois que c'est la même.
Ou Mathurin, on connaît leur voix.
Ouais, mais Samuel Jackson, j'ai toujours évité. Il y a des films que si j'avais que l'option française, je ne matais pas le film. Parce que j'adore sa voix.
Sa mère l'a eu très jeune, hein. Elle l'a eu à l'âge de 16 ans. Ouais. Elle est de quelle origine, sa mère?
Alors, iroquoise et irlandaise. Ils sont nés dans le Kentucky, Knoxville, à côté de Knoxville. Donc il n'est pas d'origine italienne comme on pourrait croire. Son père peut-être un peu, mais il a eu, enfin à part au niveau génétique, il a eu tellement peu de liens avec.
Le père disparaît assez vite dans l'histoire.
Oui, il savait même pas qu'il avait un fils. Il l'a appris quelques années plus tard. Il s'est dit, tiens, il y a un Tarantino connu, qui sait ? Ah, tiens.
Alors, il a un père, pas de substitution, mais il y a un homme qui va l'adopter.
Oui.
Hein, c'est le deuxième compagnon de sa maman. Comment il s'appelle ?
Curtis.
Ouais. Curtis Zastaoupil.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il s'est appelé comme ça pendant des années.
Tarantino, il s'appelait pas Tarantino.
Non, il s'appelait Zastaoupil. Et il a décidé, quand il a voulu quitter la maison pour aller travailler, il s'est dit, je vais recréer une nouvelle personnalité. Et à ce moment-là, il a repris le nom de son père. Et il s'est dit, je vais créer un nouveau Tarantino. Donc, comme il commençait à prendre des cours de comédie, il s'est dit, je vais être l'acteur de ma vie, en fait. Et il a essayé de pousser ce truc, de sortir des endroits relativement populaires de Los Angeles. Il habitait juste à côté de l'aéroport de LAX sans jamais avoir pris l'avion de sa vie.
LAX.
Voilà, sans jamais avoir pris l'avion de sa vie. Et donc il essayait à 16 ans, de faire croire qu'il avait 18 pour pouvoir se faire embaucher. Donc il était déjà en train de jouer.
Il y a cette anecdote incroyable où vous racontez que c'est Hervé Kettel qui lui paye son premier billet d'avion pour aller chercher des sous à New York.
Ouais, pour aller faire
lui,
un casting.
Lui en première, eux en écho, et c'est son premier voyage en avion.
Oui, il était jamais sorti de Los Angeles. Même il y avait des quartiers, il était resté dans ses quartiers quoi. Il avait une petite voiture toute pourrie et il allait pas ailleurs parce que de toute façon Los Angeles, on reste plus ou moins dans son quartier quoi.
Ce Curtis, il a une, c'est la base, je crois, c'est peut-être la base de sa formation cinématographique. C'est lui qui va l'initier au cinéma. Comment ?
Ils regardent ensemble sur le canapé du salon, ils regardent la télé ensemble et Curtis lui dit, alors lui il a fait ça. Par exemple, ils étaient en train de regarder, comme je montre dans le livre, La planète des singes. Et il fait, alors lui c'est Roddy McDowell et le jeune Tarantino qui a 4-5 ans à l'époque, c'est pas possible, comment il sait que c'est ça, il voit à travers les masques de singes, comment il peut savoir, et il se dit, quand je serai grand, être grand en fait, ça veut dire s'y connaître à fond en cinéma. Du coup il se dit, ok, j'accepte, et il commence à s'intéresser au cinéma, à noter les noms, après à faire des petits carnets, des choses comme ça et tout, à se faire des mini critiques dans sa tête dès qu'il sort d'un film. Il garde tous ses tickets. Je pense qu'il y a un moment, il avait dit qu'il avait un cahier dans lequel il avait collé tous ses tickets d'enfance ou des choses comme ça et tout. Donc il commence à être obsédé par le cinéma très vite et ça devient aussi la sortie de substitution puisque sa mère n'a pas d'argent pour pouvoir payer des babysitters. Et quand leur relation avec Curtis s'arrête, elle continue à avoir donc des petits copains et c'est coûte trop cher les babysitters, donc il l'emmène au cinéma et c'est comme ça que le jeune Tarantino découvre des films pour adultes comme La Horde Sauvage ou Délivrance à un âge où ses copains étaient à Disney quoi.
Délivrance de John Boorman, c'est pas un film pour enfants. Hein.
Pas du tout. C'est un film.
C'est un chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre absolu. Avec une scène, deux scènes qui ont particulièrement marqué.
Culte.
Voilà. Alors la première, c'est la bataille de, le duel de Banjo.
Ouais.
Qui est absolument formidable. Et, la scène.
La fameuse. On va pas.
Voilà. On va pas.
On ne peut pas vous en dire plus à cette heure-là. À Méziane.
Je vais me contenir.
Mais il est jeune. Mais
il est très jeune.
Mais c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Et l'autre, alors qui est sorti un tout petit peu avant d'ailleurs, The Wild Bunch, la Horde Sauvage de Sam Peckinpah.
Sam Peckinpah.
Grand réalisateur.
Oui. Qui a eu beaucoup d'influence sur Tarantino, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a énormément. Le fait que Peckinpah a eu d'influence sur des réalisateurs que lui a beaucoup aimé, et beaucoup d'influence sur le cinéma de Hong Kong, dont John Woo, a fait qu'il a retricoté, qu'il a triangulé ses influences des années 70 avec ses influences de Hong Kong et les influences européennes, comme Godard et Truffaut.
Truffaut, en ce moment, c'est chaud avec Tarantino, on en parlera tout à l'heure.
D'accord.
Vous avez vu l'interview qu'il a donnée sur Truffaut ?
Non.
Vous n'avez pas vu ?
Non.
Il déglingue Truffaut.
C'est possible.
Il déglingue Truffaut. Très marrant.
C'est possible.
Il encense Godard et il déglingue Truffaut.
Je fais très attention. En fait, le plus gros problème lorsque j'ai fait mes recherches sur Tarantino, c'est que tout le monde, son frère et son chien et la grand-mère, peut publier un post sur une news de Tarantino qui généralement est juste une reprise de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a pas dit. Et donc c'est très très dur d'arriver à... Généralement, je me concentre sur des choses qui sortent de sa bouche. Il y a un moment, il faisait un commentaire sur le fait que avec sa mère, blabla, il y a une histoire qu'il avait racontée. Je n'y ai cru qu'à partir du moment où j'ai trouvé le podcast dans lequel il en parlait pendant 5 minutes et qui donnait sa version en entier. Parce que tout le monde donne son avis et il suffit qu'ils disent 3 mots et tout à coup, oh, Kill Bill 3 est annoncé. Et pendant 5 semaines, on a des posts partout parce que moi je mets des alertes sur internet pour pouvoir avoir les trucs qui remontent. Et là, j'avais arrêté de le faire et je n'ai pas lu le truc sur... Mais ça m'étonne pas parce qu'il a aussi des problèmes avec Godard, puisque Godard a trouvé que c'était un paltoquet à l'époque, puisque Tarantino n'arrêtait pas de citer Godard et Bande à part comme son film préféré. Et Godard lui a dit, bah, c'est bien, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, au bout d'un moment, il a dit, Godard, c'est vachement bien, mais c'est plutôt la critique de Pauline Kael sur Godard qui m'a inspiré pour de vrai. Donc si Godard ne m'aime pas, c'est pas grave, le mal est fait, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre et je...
Non mais c'est quand même incroyable d'imaginer que c'est un festival de films, une rétrospective de Godard qui va lui déjà presque le forger en tant que cinéaste.
Ah oui, ça a été ça a mis sa direction.
Un film avec Anna Karenine, Claude Brasseur, enfin voilà.
Oh oui, non mais c'était... Les festivals de cinéma ont une grande importance parce qu'il y a énormément de gens au début de leur carrière qui découvrent des pans entiers de cinéma d'antan, mais dans des bonnes conditions. Moi, dans les années 90, j'ai découvert le cinéma japonais, j'ai découvert les Atoichi, les Baby Cart, mais aussi la trilogie des Musashi, tout ça. Et voir ça au cinéma quand on est jeune, ça forme réellement. Quand j'ai vu le Zatoichi, ça a marqué ma vie. J'ai même fait une version moderne de Zatoichi en bande dessinée qui s'appelait Clan. Donc, ça le festival de cinéma peut avoir une grande importance pour un auteur. Ça peut planter des graines qui vont faire des arbres sympas après.
Bon, Amazing Amazian, la radio, c'est comme au cinéma, il y a des entr'actes. Je rappelle que vous publiez Quentin par Tarantino. Alors, vous dites Quentin. Les Américains disent Quentin, non?
Oui.
Ou Cutie. Non?
Ouais, moi je dis Cutie parce que comme je l'ai tapé son nom tellement de fois, je vais à l'essentiel.
Cutie, c'est son surnom en fait.
C'est son surnom, voilà. Sa mère l'appelait Cutie et quand ses copains commencent à l'appeler Cutie, elle lui a dit faut arrêter parce que c'est mon surnom qu'on a tous les deux. Et moi je m'étais dit, maintenant que je me raconte l'histoire de la famille, je vais l'appeler Cutie, ça va être plus simple.
Et votre biopic Quentin par Tarantino aux éditions du Rocher sort, vient de sortir. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, c'est pas tous les dimanches qu'on parle de cinéma, mais on va parler de cinéma à travers un livre. Le livre de notre invité qui s'appelle Amazing Amazian aujourd'hui, qui est illustrateur et qui publie Quentin par Tarantino aux éditions du Rocher. C'est une biographie en BD, on va dire. Un biopic, oui. BD, mais c'est votre signature à vous, hein.
Oui.
C'est le deuxième volet de ce que vous avez appelé votre trilogie.
Ciné-trilogie, tout à fait.
Ciné-trilogie. Et donc le troisième, c'est...
Je l'annoncerai bientôt, on est en train de se fixer avec l'éditeur pour savoir exactement qui c'est.
Les spéculations disent que c'est Spike Lee, mais bon...
Ah, j'aime bien Spike Lee. Il y a énormément, ma liste est très très longue. Je suis capable de faire des bouquins de cinéma.
La 25e heure, c'est un film incroyable.
Ah, j'adore ce film.
Incroyable. Il y a la scène dans les toilettes avec Edward Norton, où il insulte tout le monde.
Oui.
Qui va durer 20 minutes.
Oui.
Avoir en VO, hein.
Oui. Le film est exceptionnel et la dernière partie du film est aussi absolument magistrale. Je n'en dirai pas plus. Je déteste spoiler les films.
Mais qui est pas un grand film. Parce que je vous parle de ce film parce que c'est pas considéré comme un grand film de Spike Lee, en fait.
Non, mais il y a plein de films qui sont pas considérés comme des œuvres majeures et quand on les regarde avec la distance et qu'on les regarde dans l'œuvre d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, on se rend compte de l'attention qui a été portée à certains films, comme Miracle à Santa Ana de Spike Lee, où c'est des soldats noirs en Italie du 92e division, où c'est une division entièrement peuplée de soldats noirs qui vont se battre contre des nazis dans un village italien. Ce film est formidable. Formidable. Personne n'en parle.
Donc, c'est ce que vous nous conseillez pour le film du dimanche soir, qu'on va chercher, qu'on va regarder.
Ah ben, si vous avez l'occasion de tomber sur Miracle à Santa Ana de Spike Lee, vous allez passer 2h20 de qualité.
Tarantino, c'est quoi? C'est 9 films?
9.
9 longs métrages.
9 longs métrages.
C'est le dernier qu'on a vu, Il était une fois Hollywood, ou il y en aura un dixième?
Alors, on peut pas savoir. Tarantino a deux versions. La première version, c'est je ferai 10 films, mais si j'arrive pas à faire mieux que le dernier, ce sera 9. Et j'ai quasiment dit adieu au cinéma à la fin du 9e, donc Hollywood. Il faut vraiment que le 10e soit bien. Le 9e, donc le Hollywood, était mon grand film épique. Donc le 10e sera une façon de finir l'histoire avec le public. Mais si j'ai envie d'en faire 11, j'en ferai 11. Donc il va un petit peu faire ce qu'il veut. Il a que 60 ans pour l'instant. Il avait dit qu'il arrêterait le cinéma à 60 ans. Ça y est, on y est cette année. Je ne pense pas qu'il s'arrêtera réellement, même si sa carrière littéraire est partie sur les chapeaux de roue, puisqu'il y a des bons contrats et des bonnes ventes, et les gens aiment beaucoup ses livres. Donc on ne peut pas savoir.
J'adore. Alors, il aime beaucoup écrire sur les films qu'il a fait. Comment est-ce qu'on appelle ce genre littéraire? C'est particulier, ça.
Ouais.
Tu vas retrouver ça.
Ouais, c'est...
Mais il aime bien ça, développer, parce qu'en fait, quand il fait un scénario, il écrit énormément sur les personnages.
Oui, il écrit d'habitude, dans les séries télé, on appelle ça des bibles. Et lui écrit toute l'histoire de ses personnages en prose, comme un roman. Donc il est romancier déjà depuis des années. Et il passe ça à ses acteurs, en fait. Il avait fait une version du scénario, le double entaille pour récupérer Brad Pitt et pour récupérer Leonardo DiCaprio. Et quand les deux acteurs ont lu tout ce qu'il y avait derrière leur personnage, ils ont signé encore plus vite que ça.
Ça, c'est dans son dernier film. Quelles sont les choses que vous avez apprises sur lui que vous ne connaissiez pas avant d'écrire et de commencer ce travail?
Je ne connaissais pas son enfance. Je m'étais jamais intéressé à la personne même de Tarantino. J'étais resté sur ses films et sur les influences de cinéma qu'il essaye de dégrainer et de partager. Je m'étais jamais réellement intéressé à sa vie personnelle. Et là, il fallait que j'écrive à la première personne, donc il fallait que je connaisse un petit peu plus et que je comprenne d'où il venait. Et c'était assez rigolo, parce que ça, dès le début, j'avais entendu dans les interviews qu'il disait que ses œuvres étaient éminemment autobiographiques, en fait. Sauf qu'il ne donne jamais la clé de ce qui l'inspire. Et mon but était d'essayer de diffuser et de donner quelques clés. Un premier exemple, c'est la Carmen Ghia, la voiture bleue que conduit Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est la même qu'avait Curtis quand il le baladait à Hollywood quand il était jeune. Donc il a voulu recréer cette ambiance de conduite dans le Hollywood de 69. Mais c'est aussi la voiture dans Kill Bill dans laquelle Uma Thurman
a failli
mourir dans son accident de voiture. Donc le but, voilà.
Ça, cette histoire d'accident, c'est dans le deuxième volet
de Kill Bill, à la fin de Kill Bill,
qui a été tué.
Oui, parce qu'il y a eu un problème. Déjà,
c'était une cascade qu'elle voulait pas faire.
Elle voulait considérer ça comme une cascade. Elle dit allez vite sur une route de campagne, c'est une cascade. Tout le monde dans l'équipe, Tarantino compris, non seulement n'estimait pas que c'était une cascade, mais il n'avait pas prévu de cascadeur. Zoé n'était pas sur le tournage, la cascadrice qui la doublait pour tout le film. Et donc Tarantino l'a convaincu de le faire en lui disant « c'est simple, il prend la voiture et il amène la voiture au bout du chemin et il fait le retour, en fait. » En lui expliquant, en lui disant « regarde, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. » Elle le fait, dès le début, elle dévie, elle rentre dans un arbre, et elle était...
James Dean.
Voilà, on a failli avoir James Dean, contusion, problème au dos, et Harvey Weinstein...
qui produisait donc le film pour Miramax.
Qui produisait le film pour Miramax, et qui est devenu... le personnage principal de la saga des Me Too, avec plus de 80 viols et agressions sexuelles prouvées par la justice, a tout fait pour étouffer l'affaire, parce que c'est ce qui fait de mieux, d'étouffer les affaires, et en même temps, ça protégeait Quentin, puisque techniquement, c'est sa responsabilité de réalisateur qui était sur l'affaire.
Mais on a demandé à Uma Thurman de se taire.
On a demandé non seulement de se taire, non seulement de ne pas expliquer pourquoi elle était à l'hôpital, et après, Uma Thurman était obligée de faire la promotion de Kill Bill 2, et on voit des photos où elle est assise pendant, à la fin de la projection, au début de la projection, juste à côté de Harvey Weinstein. Tout son talent d'actrice est en jeu pour essayer d'avoir le moins d'émotions et de dégoût à ce moment-là. Au moment où Uma Thurman accuse Harvey Weinstein de viol,
des années plus tard, elle sortira les images.
Voilà, Tarantino accepte en fait, parce qu'il avait les images, il est propriétaire des images, tout ça, il a récupéré l'image, enfin la séquence filmée, et il la donne à Uma Thurman pour qu'elle l'utilise pour le procès, ce qui fait que ça les remet plus ou moins sur une relation amicale qui s'était un petit peu distendue.
Les deux. C'est pour ça qu'on a reparlé derrière d'un Kill Bill 3, dans lequel elle serait d'ailleurs.
Oui, techniquement, il est censé y en avoir deux. Si ça, d'après les interviews de Quentin, c'est Kill Bill 3 et Kill Bill 4. Dans Kill Bill 3, on a la fille de Vernita Green, la femme du début, qui avec la petite fille qui survit, et cette fille devient grande, et à ce moment-là, elle aussi veut se venger, et donc elle veut tuer Kido, donc Kill Kido. Et ensuite, on a le Kill Bill 4, où on a la Bibi, la fille, où j'ai appris que son nom Bibi, c'est Béatrice et Bill. C'est ça, c'est la signification des bébés. Et donc, Bibi, qui sera grande, elle va vouloir venger sa mère. Eh bien, tout le monde est sur les chapeaux de roue, et tout le monde n'attend qu'une seule chose, c'est que ça arrive. On verra.
Vous êtes intéressé donc à l'enfance ? Alors, ce qui est intéressant pour les amateurs de comics et de BD, c'est que quand vous dessinez l'enfance, vous adoptez un autre style graphique.
Oui, tout à fait.
Qui est très proche de ce qui se dessinait dans les années 60.
Oui, oui. J'essaye de faire en sorte que pour chaque période, je me rapproche le plus possible de l'artefact, en fait, de la période. Ma formation de graphiste me permet de faire des fausses affiches, des fausses strips. Et du coup, j'étais inspiré par Snoopy et Calvin et Hobbes. Et j'ai pensé que c'était la meilleure façon de raconter l'enfance de ce gamin turbulent qui était Quentin Tarantino, Quentin Zastoupil. Et ça me permet vraiment de m'amuser au niveau des images. En fait, le lecteur est censé être surpris. Et au bout d'un moment, quand on commence à prendre le rythme, dès qu'on tourne les pages, on se dit mais qu'est-ce qui va arriver ? On ne sait jamais ce qui va arriver en fait. Et si j'arrive à faire ça...
Ça c'est le principe des Américains, le page turner.
C'est ça. Et du coup de surprendre continuellement. Et c'est la liberté qu'on a dans le graphic novel de pouvoir changer de style et de faire des fausses affiches, des bandes dessinées, des strips.
Non mais vous jouez avec ça.
Oh oui, moi je m'amuse à fond là-dedans. C'est la meilleure partie du boulot ça.
Et très tôt, c'est un gamin qui dit des gros mots. Et c'est quelque chose qui lui est resté quand même. Il a un langage fleuri.
Oui, 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 mais parce qu'il est bullshit, d'après ce qu'il dit. C'était le premier mot qu'il avait prononcé, mais vraiment très, très petit. Hein. Et sa mère lui a dit qu'il fallait qu'il arrête, parce qu'à la maison, ça posait pas de problème, mais qu'à l'extérieur, voire à la maternelle, il risquait d'avoir des petits problèmes. Et c'est resté très longtemps. En fait, Tarantino est dans cette espèce de poursuite de l'honnêteté, en fait, dans la discussion et aussi dans ses dialogues, c'est-à-dire les gens parlent comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi je serais poli ou pourquoi je ne dirais pas exactement ce que je pense. Et donc il estime qu'il a le droit à l'honnêteté de ses personnages. Et si il écrit un personnage qui est raciste, un esclavagiste, cette personne va dire des mots que l'on ne voudra pas répéter, qu'on ne voudra pas entendre. Mais il doit les dire, puisqu'un esclavagiste ne peut pas Il peut pas écrire un esclavagiste sympa, il peut pas écrire un nazi qui va être sympa, c'est pas possible. Donc il doit être le plus proche possible de la vérité historique de ces gens, et ça va piquer les oreilles. Du coup, je suis censé avoir des mots que je n'ai pas envie de dire et que je n'ai pas envie d'écrire dans mon livre.
Il y a un bip, c'est comme à la radio.
Exactement.
On devine.
Voilà, on sait ce que c'est. Et sachant que pour mon précédent livre, pour le Martin Scorsese avait pour le Loup de Wall Street le record mondial de fuck prononcé dans un film, essentiellement par Jonah Hill. Et donc je me suis dit,
c'est Leonardo DiCaprio.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, hop, pour le Loup de Wall Street, je vais faire une double page et je vais mettre le maximum de fuck possible sur une page imprimée. Et j'en ai 400. Donc je pense être pas très très loin du record mondial, mais pour Quentin Tarantino, qui lui en dit vachement plus quand il parle et quand il s'exprime, je pouvais pas me permettre de traduire littéralement tout ce qu'il allait dire, parce que ça allait vraiment piquer au bout d'un moment. Donc du coup, je m'amuse à trouver des formules fleuries, et quand il faut, je bippe, tout le monde sait ce qu'il y a en dessous.
Voilà, interdit au moins de 12 ans.
Voilà.
Vous voyez. Vous parlez de Leonardo DiCaprio, mais vous racontez une anecdote sur le tournage de Django Unchained. Oui. À un moment donné, il tape le poing sur la table.
Tout à fait.
Et il se blesse vraiment.
Ah ouais, ouais. Au moment où il a la femme de Django sur le côté, ils découvrent en fait que c'est la femme de Django. Il y a une espèce de petite soucoupe ou quelque chose comme ça, et il tape du poing directement dessus dans la scène, et il ne s'arrête pas. Dans la scène, on voit qu'il regarde sa main, il se rend compte qu'il saigne, et il va jusqu'au bout de la scène. Il décide, une fois que c'est fini, avec Tarantino veut qu'il aille aux urgences pour qu'il se fasse recoudre la main. DiCaprio, lui, non seulement il ne veut pas, il veut continuer, il veut terminer la scène parce qu'il est dans la bonne ambiance, mais surtout il propose de étaler le sang qu'il a sur la main sur le visage de la femme de Django. Et du coup, ça rend cette scène encore plus terrifiante.
On la verra plus jamais de la même façon maintenant.
Non.
Et après, il est allé se faire recoudre.
Après, il a été se faire recoudre et il est revenu. Parfait.
Bon, on a beaucoup de choses à dire. Votre BD, c'est presque 300 pages hein, quand même.
240.
Voilà, pour vous expliquer que c'est vraiment un biopic avec énormément d'informations sur Quentin Tarantino. Et ça se lit vraiment, hein, ça se feuillette pas, ça se lit. Non, je dis ça parce que pour ceux qui ont l'habitude de lire les BD, il y a beaucoup de textes quand même dans vos BD.
Oui. On peut me le reprocher, mais généralement, les gens aiment bien.
Donc quand on apprend des choses et qu'il y a des informations, bien sûr.
C'est génial.
Voilà, et donc ça vient de sortir, Quentin par Tarantino, aux éditions du Rocher. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors c'est la première fois que je reçois Amazing Amazian, ça c'est votre nom de dessinateur, pour parler de Quentin par Tarantino aux éditions du Rocher. C'est votre nouveau biopic qui vient de sortir. Comment s'appellerait le film de votre enfance s'il avait un titre?
Bonne question.
J'ai vu Italian Algérian.
Ah oui, c'est vrai, ouais.
C'est un bon film, ça.
Ouais, ça serait bien, ça.
C'est entre pâtes et couscous.
Ouais,
et semoule.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, le lien avec le truc de Scorsese, ouais, c'est vrai. Ouais. Italienne algérienne, ouais, ce serait vraiment quelque chose qui serait intéressant.
Ouais. Comment est-ce que vous avez, à un moment donné, imaginé que vous pouviez devenir dessinateur, réalisateur, scénariste?
Quand on est jeune, on fait des rêves comme ça, et puis au fur et à mesure, on essaye d'apprendre les qualités, enfin les capacités techniques pour pouvoir mener le travail. Et puis j'ai eu la mauvaise idée, ce que je ne conseille à personne, de saboter la moitié de mes études, c'est-à-dire au bout d'un moment de passer trop de temps à dessiner et à lire plutôt que de travailler l'SVT. Et même si j'étais fort en histoire, et au bout d'un moment, mes études ne m'ont pas permis d'aller là où je voulais, et j'ai fait la publicité. Et
c'était quoi, vous vouliez faire les beaux-arts?
Je voulais faire F12, le bac F12 art graphique.
Tiens, ça rappelle des souvenirs.
Oui, oui.
12. C'est pas une touche sur votre ordinateur.
Non. C'était il y a un bon moment. Et du coup, j'avais la possibilité de rentrer en F12, mais mes notes n'étaient pas suffisantes. J'étais bon en français et bon en histoire. Je pensais que j'avais besoin que ça. Et en fait, non, ils ont quand même regardé les maths. Et du coup, j'ai fait des études d'art graphique. Parce que mes parents m'ont dit, si tu veux faire de la bande dessinée, pourquoi pas, on te fait confiance, mais il faut que tu aies un métier d'abord. Donc du coup, j'ai fait graphiste pendant des années, directeur artistique, tout ça et tout, dans la presse. Et en 2001, j'ai trouvé que le monde avait changé, et je m'étais dit...
Après les événements, comment
c'est ça, après les événements du 11 septembre, je m'étais dit, foutu pour foutu, si on va tous mourir, je vais mourir en tant qu'auteur de bande dessinée, parce que pourquoi pas, hein.
Mais parce que c'était votre passion surtout.
C'était ma passion, ouais. Et je m'étais dit maintenant, j'étais en train de travailler comme graphiste pour payer le loyer dans un magazine de rap, et j'aimais pas tellement ce que je faisais, c'était assez inintéressant ce que je faisais. Je comptais travailler encore 2 mois pour réunir un peu d'argent pour partir pour pouvoir travailler, et en fait je me suis fait virer. Et je m'étais dit voilà, c'est le signe céleste que j'attendais. Maintenant j'ai que ça à faire. Je me suis fait virer en décembre, en février, je signais mon premier livre.
Vous êtes auto-édité en BD, hein, quand même au début.
Oui, on faisait ce qu'on appelle un fanzine, mais ça ressemblait plus à un magazine. C'était super propre, super clean, la maquette était super. Et c'est d'ailleurs la conception de ce fanzine qui s'appelait Golgoth à l'époque, qui m'a permis d'avoir du travail comme graphiste et comme directeur artistique pendant des années, parce que c'était très avant-gardiste au niveau de la mise en page, des choses comme ça, et ça m'a permis de décrocher beaucoup de boulot plus tard.
Bien, alors, Monde à la réalisation... On va passer à un extrait musical. Chanson s'appelle Stuck in the Middle with You. C'est pas une chanson des Beatles, comme on pourrait peut-être le croire.
Oui, ça sonne pareil, ouais.
Hein? C'est Jerry Rafferty, pour ceux qui se souviennent de Jerry Rafferty, qui l'a coécrite avec Joe Egan. Alors, pourquoi cette chanson?
Parce que Tarantino en avait besoin pour la scène de torture dans Reservoir Dogs. C'était écrit dans le scénario, et avec le producteur, ils s'étaient dit il faut absolument, je la veux. Ils se sont dit, c'est pas compliqué, on a 30 000 dollars de budget pour acheter de la musique. Ils ont été voir Pat Lucas chez EMI, ils ont été voir Pat Lucas qui était la boss qui pouvait décider s'il devait signer ou pas les musiques. La productrice de Tarantino a écrit ce que lui appelle un blowjob letter, c'est-à-dire une lettre où elle dit que...
Alors, blowjob, c'est un gros mot, ça. Hein.
Oui.
On traduit pas.
Donc, c'est une lettre d'amour.
On a failloté.
Voilà, on a failloté. On a dit, c'est formidable, le cinéma entier vous remerciera si vous acceptez ça. Et Pat Lucas, elle a dit, ok, si vous pensez qu'il a autant de talent, combien vous avez d'argent, combien vous avez de budget? Ils ont dit 30 000. Ils ont dit, ok, je prends tout. Et il a eu sa chanson. Et après, ils se sont dit, mais attends, il suffit juste d'avoir un contrat de disque et on pourra payer pour le reste des chansons. Et on a eu ce disque que moi j'ai écouté pendant des années et que tout le monde a aimé à l'époque, qui a fait un succès. Et Tarantino a pu avoir toutes ses chansons dans son film.
La bande originale, et d'ailleurs, les bandes originales sont constitutives des films de Tarantino, d'ailleurs.
Oui. Et dès Pulp Fiction, il met des extraits de voix, en fait. On a la voix de Samuel Jackson dans la bande originale de Pulp Fiction, et des choses comme ça et tout. Donc c'est à chaque fois, il a, comme il est fan lui-même, il sait ce qui qu'il aimerait avoir dans la version rêvée de son projet. Et du coup, il essaye de nous le donner.
Cette scène de torture a failli ne jamais sortir dans les salles, puisque Weinstein n'en voulait pas.
Non, non, il distribuait le film à l'époque, et il lui a dit... je vais citer Weinstein à ce moment-là. Il a dit les pétasses, on en a besoin pour
faire du chiffre.
Pour faire du chiffre. Ouais. Donc, on va les perdre si tu gardes cette scène de torture. Et Tarantino dit.
Alors, il faut expliquer la scène de torture, pardon.
Alors, pour la scène de torture, c'est un policier qui est torturé par Mr. Blonde. Mr. Blonde sort un rasoir de sa botte. Il l'asperge d'essence. Il lui coupe l'oreille. Et après, je vous laisse voir le film.
Et donc, beaucoup de gens ont cru que c'était.
Beaucoup de gens ont cru d'avoir vu réellement la lame trancher l'oreille, alors que c'est pas vrai, et des choses comme ça. Donc du coup, Tarantino discute avec Weinstein et il arrive à le convaincre et lui dit c'est la séquence primordiale dans le film. Si on l'a pas, on casse le film. Ce film a été fait avec honnêteté. Moi, c'est mon travail. Moi, je fais les choses avec honnêteté. Si je dois choquer des gens, je le choque. Les gens, à partir de cette scène, me suivront ou ne me suivront pas.
Le film est culte et vous expliquez qu'il s'est écrit un rôle, hein, Mr. Brown.
Tout à fait.
Voilà, pour le film. Pulp Fiction. Alors déjà, Pulp Fiction, qu'est-ce que ça veut dire quand on traduit ?
Dans le titre, c'est surface molle, espongeuse, et l'autre côté, c'est qu'on appelle ça, c'est les romans de gare des années 40.
On a beaucoup dit et on dit toujours de Tarantino qu'il est là pour relancer les carrières d'acteurs qui sont has-been. Comment est-ce que l'idée de John Travolta lui a-t-elle été imposée?
Alors il avait sa liste, elle est apparue sur internet il y a pas très longtemps, la liste des acteurs dont il avait besoin, dont il voulait. Pour Vince, le premier, c'était pour jouer Vincent, c'était Michael Madsen, donc il devait reprendre
son rôle de Reservoir Dogs.
C'est ça. Mm-hmm. Et donc le deuxième, c'était tout de suite Travolta. Et donc il s'est battu pour avoir Travolta, puisque lui avait l'intime conviction que Travolta est une star, une grande star. Et même s'il faisait des films qui n'étaient pas de son niveau et voire assez peu intéressants, des bébés qui parlent, des choses comme ça. Pour le monde entier, Travolta était une icône. Et d'ailleurs, il y avait pendant la première de Pulp Fiction, Pedro Almodovar est assis à côté de Tarantino et Travolta enlève ses chaussures, il est sur le point de danser avec Uma Thurman et Pedro Almodovar attrape le bras de Tarantino. Il fait non, c'est pas vrai, tu vas le faire danser. Et voilà, ça c'est.
Et il y a cette scène où il y a le twist.
Oui, tout à
avec
fait.
Les doigts à la croisée, ouais, en V.
Ça. Ça, c'est, il voulait une ambiance à la Batman des années 60 avec Adam West, et où Uma Thurman devait danser comme la fille dans la chatte dans les Aristochats.
C'est culte.
Voilà.
À revoir. Alors, il y en a qui lui ont toujours dit non. Sylvester Stallone, par exemple, qui est sur sa liste.
Ouais, qui a refusé plusieurs de ses films. Il devait être normalement dans Death Proof, mais il a refusé, puisqu'il il estimait que les violences faites aux femmes, qui étaient.
Il n'était pas, aligné avec ça.
Non,
pas du tout. Kevin Costner aussi, qui a refusé d'ailleurs. Il y a pourtant quelqu'un qui a des hauts et des bas, hein, au cinéma.
Oui, mais Kevin Costner, c'est quelqu'un de très spécial. Il a une vision de choses qu'il aime et qu'il aime pas, et il est capable d'accepter des projets moindres mais qui sont plus alignés avec ses idées.
Donc, voilà, et même s'il tourne plus beaucoup, c'est son choix.
C'est ça, voilà.
Bien, c'est passionnant, vous allez voir, il y a énormément d'informations. Votre livre s'appelle Quentin par Tarantino, vous remontrez le livre à la caméra. Je rappelle que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net, revoir la vidéo et la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous accueillir.
Merci,
c'est un bonheur
été.
De vous écouter. J'adore quand vous racontez les histoires. Et les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Passez un bon dimanche sur beurrefm.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur beurrefm.